Bonsoir à tous, c'est Jeudi Noir qui reprend pour cette nouvelle année d'émission. Vous venez d'entendre les Diss-Rags, Death in the Family. On va vous parler aujourd'hui d'un auteur sur un mode d'émission un peu hommage, on peut le dire, puisque c'est un auteur qu'on a déjà présenté plusieurs fois dans l'émission dans Jeudi Noir, et c'est un auteur qu'on aime bien. Et il se trouve qu'il est mort cet été. On souhaitait un petit peu revenir sur son œuvre. C'est un anthropologue. Il s'appelle James C. Scott, anthropologue anarchiste, qui est né en 1936. Donc qui a une œuvre importante, qui laisse une œuvre importante derrière lui, et qui est intéressante sur beaucoup de choses, assez original, pas sans rapport avec d'autres auteurs qui sont un peu aussi nos chouchous à Jeudi Noir, notamment Graeber, qui est mort lui également, mais qui sont en fait des représentants américains de l'anthropologie anarchiste, qui renouvelle et qui a renouvelé assez largement la discipline. Alors James C. Scott, donc né en 1936, c'est quelqu'un qui a travaillé d'abord sur un terrain du côté de la Malaisie, notamment à la fin des années 60. Et à partir de ses études de terrain, il a développé en fait toute une anthropologie des formes de résistance populaire à l'émergence des institutions étatiques et résistance populaire à l'égard du pouvoir de manière générale sur un mode qui est assez nouveau, puisque contrairement à ce qu'on dit parfois, il a soutenu pendant toute son œuvre que les classes populaires, les catégories populaires n'intégraient pas, contrairement à ce qui est un peu la vulgate habituelle, les normes des dominants, mais en fait faisait semblant d'intégrer d'une certaine manière ces normes et développer tout un tas de stratégies pour en réalité échapper à ceux qui souhaitent les gouverner. Donc ça, c'est résumé de manière un petit peu schématique. Alors c'est ce qu'il y a d'original évidemment dans cette approche là c'est que c'est d'abord une espèce de tentative pour décrire des formes de résistance au pouvoir et toutes les formes de gouvernement, en particulier étatique. Et puis ça aussi remet un petit peu en discussion mais ce qui est un petit peu l'idée dominante aujourd'hui, à savoir l'idée que au fond les classes dominantes ont toujours réussi d'une certaine manière à imposer leur hégémonie à ceux qui souhaitaient gouverner, c'est-à-dire un système de valeurs, un système de pratiques, un système de règles, une représentation du monde. Alors cette notion d'hégémonie, on la trouve notamment chez les marxistes, du côté de Gramsci par exemple. Ça fait beaucoup frétiller à l'extrême droite aussi depuis pas mal d'années, puisqu'il s'agit de mener du côté de l'extrême droite une guerre culturelle pour essayer de s'emparer de cette hégémonie. Et en fait, l'idée de Scott, c'est que cette hégémonie, elle est largement fictive, superficielle, et que elle ne correspond pas en fait à la réalité de ce que vivent les gens, de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils font. Voilà. Alors bon, c'est juste un résumé à très très gros traits, mais c'est Michel qui va nous parler un petit peu de ça ce soir. Pour avoir une espèce de panorama un petit peu des différentes idées, des différents points qui ont pu être défendus par Scott tout au long de son œuvre. Voilà.
Alors Jean-Baptiste, ça résume à peu près tout ce que j'allais dire, donc ça va être compliqué de rebondir là-dessus, évidemment. Donc d'abord, je ferai une remarque préliminaire, c'est que en règle générale,
les auteurs sont trop longues. Okay,
les auteurs qu'on présente trois fois meurent. Ouais. Donc si vous connaissez un auteur que vous détestez, signalez-le nous qu'on l'invite trois fois. Parce qu'on avait parlé trois fois de Graeber, il est mort. On avait parlé trois fois de James C. Scott, il est mort. On avait parlé trois fois de Jacques Douvresse, il est mort. Donc ici, je pense qu'il y a quand même une piste à creuser. Si jamais vous savez comment inviter... non, je vais pas le dire. Et donc, alors, au sujet de Graeber, pardon, de Scott... là, tu as fait allusion à tout un tas de ces bouquins qu'on a en partie présentés, La domination et les arts de la résistance, qui ont été édités en 2019 aux éditions Amsterdam en français. C'était un plus vieux bouquin qui datait de 92, qui a été pas mal repris dans les études subalternes. Zoomia ou l'art de ne pas être gouverné, 2009, édition originale 2013 en France. où là, il étudie, en quelque sorte, tout un pan de l'Asie du Sud-Est, où tu as des populations dont il estime qu'elles ont sans doute fui l'État, ce qui peut c'est dans des zones marécageuses, montagneuses, où tu trouves une diversité linguistique assez folle, et où les États ont eu beaucoup de mal à s'implanter.
C'est ça, c'est des populations paysannes ou montagnardes.
C'est
très souvent ce type.
Et donc, ça, c'était du côté de la résistance. Et l'autre pan de son travail, c'est aussi... une étude de l'État, d'un point de vue qu'il va qualifier lui-même d'anarchiste, même si c'est pas, pour plein de raisons, un doctrinaire anarchiste, et qu'il y a plein de choses qu'il distingue de l'anarchisme, en particulier le fait qu'on n'a pas mentionné qu'il avait brièvement travaillé pour la CIA, quand il était justement étudiant.
Ce qui prouve que c'est un anarchiste
pur et dur.
Il a aussi élevé des moutons, ça, vous voyez.
Ça, c'est vrai,
il a aussi élevé des moutons. Il a vécu la plupart du temps dans une ferme, du Durham.
En même temps qu'il écrivait ses bouquins. Voilà. Alors, ses bouquins sont souvent assez passionnants, ils sont un peu écrits, je dirais un peu à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire qu'il a deux, trois idées de base qui sont assez fortes et intéressantes, et après, il y a une tonne d'exemples. Donc, c'est des livres qui sont, d'un point de vue empirique, très très riches, j'y reviendrai, parce que je pense que c'est important. Et donc, au sujet de l'État, lui, qu'est-ce qu'il a écrit ? Un bouquin qui s'intitule « L'œil de l'État », qui date de 98, mais qui a été très très récemment traduit chez La Découverte. Et il y a aussi « Homo domesticus », qui lui a été traduit plus vite. Il est sorti en 2019, on l'avait présenté. Et puis, il y avait aussi un petit éloge de l'anarchisme, si vous avez envie de le lire, qu'on a aussi présenté
chez Lux.
Qui est plutôt pas mal, parce que comme c'est un auteur très prolifique, qui couvre énormément de terrain, si jamais son œuvre vous intéresse, vous pouvez aller lire ça, parce que ça fait une espèce de synthèse, qui est très abordable, très lisible, et qui, à mon avis, est assez facile à trouver. C'est une version un petit peu allégée des bouquins de Scott. Pour résumer un peu grossièrement les idées, moi, qui ont attiré mon attention chez Scott... Et je dirais d'une part que ce qui m'a intéressé, moi, du fait de mon background philosophique, c'est que d'une part, il me semble qu'il s'oppose, mais tu l'as suggéré, à une vision très répandue en philosophie politique, qui voit dans l'État une espèce de progrès de la rationalité. Voire qui voit dans l'État la réalisation de la raison. Ça, c'est un truc hegelien, chez Hegel. Et pour Scott, l'État, ni dans sa forme primitive d'il y a 5-6 000 ans, ni dans sa forme moderne, récente, apparue il y a environ 200 ans, pour lui, l'État n'est pas n'est pas une réalisation de la raison. Et une des conséquences de ça, c'est que ça implique que les résistances à l'État ne sont pas forcément irrationnelles non plus. Et donc, tu n'as pas une espèce d'avancée conquérante d'un État rationnel qui s'opposerait à l'irrationalité populaire des gens qui n'ont pas compris là où était leur bien.
Cette idée-là, effectivement, d'une espèce de marche de la raison, c'est lié à ça. Au fait, l'État, c'est l'administration, c'est l'économie, c'est l'armée, c'est le droit. Et il y a effectivement souvent cette idée-là en philosophie politique, l'idée qu'avec l'État, on arrive à des formes un peu mûres, en quelque sorte, de tous ces domaines-là, par rapport aux sociétés traditionnelles, qui, elles, sont encore héritières de mythes, de pensées religieuses et ou magiques, etc. Et du coup, effectivement, c'est une manière aussi toujours de légitimer, en quelque sorte, l'État en tant qu'institution. C'est-à-dire, effectivement, il y aurait une espèce de développement naturel, de maturation des sociétés humaines qui convergeraient vers ça. Effectivement, c'est pas du tout comme ça que Scott voit les choses.
Pas du tout. Alors, d'une part, lui, alors là-dessus, il n'est pas trop essentialiste, c'est-à-dire qu'il considère que l'action de l'État peut être émancipatrice dans certaines situations, que les traditions populaires peuvent être aussi aliénantes, et donc, faut voir. Mais malgré tout, ce qu'on peut savoir des États, tant à lui faire présenter la chose de la façon suivante, c'est que pour lui, malgré tout, l'État, avant le 19e siècle, est essentiellement une entreprise de racket. T'as un pouvoir qui s'institue sur un territoire, au sujet d'une population qui l'ignore ou qui le fuit, et l'État va essayer de s'approprier un maximum du travail des populations qui sont présentes.
Ce qui veut dire que l'État, c'est d'abord l'armée.
L'armée, et pas seulement, l'armée et l'administration. Parce qu'il faut savoir des choses sur... Il faut que le territoire devienne lisible. Et donc, il faut que l'État développe des formes de connaissance du territoire qui est là, pour pouvoir exploiter la population.
Ça, pour le coup, c'est des choses qu'on trouve aussi chez Graeber. C'est en ce sens-là...
Complètement. Et les premiers États sont globalement brutaux et inefficaces, parce qu'ils ne peuvent pas avoir une action assez fine pour prélever des richesses de manière continue et indolore. Donc régulièrement, bim, ils tombent à bras raccourcis sur les gens qui vivent sur un territoire donné pour leur piquer un maximum de choses. Alors là, je voudrais tout de suite commencer par faire un truc désagréable, parce que j'aime bien ce genre de choses. C'est que en France, il me semble que l'œuvre de Scott a été présentée un peu trop dans la continuité de celle de Foucault. Ça se voit à des tas de petits détails, des allusions qui sont faites à Foucault. Et c'est vrai que Scott lui-même fait allusion à Foucault. Et le rapport, ça pourrait être l'idée que justement l'accroissement du pouvoir de l'État est en lien étroit avec le développement des savoirs développés par l'État. Et cependant, moi je voudrais tout de suite dire, je pense que cette référence est trompeuse pour tout un tas de raisons. Et peut-être que la raison essentielle, c'est que Foucault a essentiellement étudié des textes réglementaires, des textes historiques, etc. Et il a étudié, en quelque sorte, des règles bureaucratiques, des lois, des lois assez générales. Et Scott, lui, raisonne d'une manière complètement différente, c'est-à-dire qu'il a un terrain. Il raisonne de manière inductive. Et une phrase de Scott qui m'avait beaucoup marqué, c'est « Je ne peux par ailleurs comprendre les concepts abstraits que si je peux les observer marchant sur la terre ferme dans un contexte empirique donné. » Je pense que ça, c'est un truc assez fondamental, parce qu'à ma connaissance, aucun Foucaldien n'oserait supposer qu'un contexte empirique puisse être donné. Il va être forcément construit, prédonné, a priori, etc., etc. Et donc cette espèce de naïveté intolérable de l'empiriste anglo-saxon, à mon avis, devrait condamner Scott aux yeux de n'importe quel Foucaldien normalement constitué.
Ce qui motive le rapprochement parfois, effectivement, en France, c'est quand même cette idée que, au fond, les discours explicites ou les discours qui se présentent comme des évidences, notamment scientifiques, sont effectivement des discours de surface. Et que l'idée, qu'en fait, derrière ça et en dessous de ça, voilà, travaillent des pratiques, des résistances, des micro-résistances, etc. Donc, c'est ça qui me semble.
Il y a plus que ça, à mon avis.
Mais je suis d'accord avec toi que, ça, à mon avis, c'est un contresens.
Il y a plus que ça, il y a aussi le côté empirique. C'est-à-dire qui est massif. C'est qu'en fait, Foucault, c'est un idéaliste. Il considère, que la réalité est secondaire par rapport à la connaissance qu'on peut en prendre. Voir que c'est la connaissance qui constitue les choses dont on peut parler. Et là, et en plus, ça a une implication aussi par rapport à la rationalisation. Oui. C'est-à-dire qu'il est possible que Foucault reste finalement dans l'idée classique que l'étatisation est un accroissement de la rationalisation, sauf que pour lui, c'est mauvais. Et finalement, toutes les formes de résistance à l'État sont plus ou moins présentées de manière romantique sous le côté irrationnel. Et ça, c'est lié au fait que, comme je pense qu'il n'y a pas d'empirie chez Foucault, il ne peut pas y avoir d'erreur. Et Scott, là-dessus, il joue un truc intéressant, c'est que pour lui, la raison, l'étatisation repose sur une rationalisation partielle et inachevée qui fait que l'État fait plein d'erreurs. L'État se trompe assez régulièrement. Et c'est pour ça que l'étatisation, l'œil de l'État, ne peut pas toujours être aussi efficace qu'en rêveraient les planificateurs, parce qu'il leur manque trop d'éléments du réel. Et ça, c'est un truc qui est plus difficile à considérer si on reste dans un foucaldisme, disons, académique.
Donc Foucault, faux ami.
Le rapprochement est superficiel, je pense. Il repose sur l'association du pouvoir et du savoir, sauf qu'en fait, ça ne se fait pas du tout sur les mêmes bases. Et donc, là-dessus, je pense que le rapprochement est une mauvaise idée. Et en plus, ça a des implications dans la terme des compréhensions. C'est que, par exemple, je pense pas que Foucault soit en mesure d'avoir une théorie de l'erreur consistante. Il y a une production de savoir qui va se modifier pour des raisons un peu obscures, mais il peut pas y avoir d'erreur d'une certaine manière. Et donc l'État peut pas vraiment se tromper. Ce qui fait que, par exemple, tu vois, je prends l'exemple dans Surveiller et Punir, l'échec du projet explicite des prisons, en fait. Qui était de rééduquer les délinquants, va prouver que le projet réel de la prison, c'est de produire de la délinquance. Foucault ne peut même pas imaginer que l'État s'est planté. Et là-dessus, moi je pense que ça a pas mal de conséquences. C'est-à-dire que Foucault, au lieu de nous dire l'État ment, va nous dire l'État produit des discours qu'on prend pour la vérité. Mais il ne rajoutera pas qu'on prend pour la vérité. Et là-dessus, je pense que justement, ça le rend un peu aveugle aux limites de l'action étatique et aux limites de la rationalité étatique. Mmh. Alors que, pour le coup, Scott, comme il s'intéresse à l'action concrète de l'État, à ses échecs par rapport à la connaissance qu'avait l'État du terrain, ben, je trouve que ça ouvre pas mal de perspectives, d'un côté, du côté comment dire, de ce qu'on peut savoir, et aussi du côté comment dire, de la façon dont on peut agir, peut-être.
Il part de la sociologie, de l'anthropologie, oui, pour en tirer des conclusions sur l'histoire de l'État et sur son inefficacité ponctuelle, alors que Foucault...
Parle de texte,
et n'est ni un sociologue ni un anthropologue, c'est voilà. Le moins qu'on puisse dire.
Ça manque. Et donc voilà, ça c'était un des premiers points que je pouvais signaler. On va peut-être faire une pause musicale, José. Et puis on se retrouve juste après.
Bonsoir à tous, c'est Jeudi Noir qui reprend sur Radio Liberté à 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Jeudi Noir pour sa deuxième partie, consacrée ce soir à l'œuvre de James C. Scott, une émission d'hommage suite à la mort de James C. Scott cet été. Vous venez d'entendre Lynn and Ocean. qui est un flûtiste de nationalité chinoise, qui nous vient de la République populaire de Chine. Et le morceau s'appelle Burns in Zomia. Pourquoi Burns in Zomia ? Eh bien parce que c'est aussi un des titres, un des thèmes sur lesquels James Scott a développé son œuvre. Michel nous disait dans la première partie de l'émission que James Scott était souvent à tort rapproché, notamment en France, de l'œuvre de Michel Foucault, et il nous a montré en quoi effectivement le souci permanent de James Scott du terrain et d'une enquête empirique nous permettait de comprendre que c'est un rapprochement beaucoup trop superficiel,
hasardeux,
et que l'anarchisme de James Scott est nettement plus fondé du point de vue ces données empiriques que ce qu'a pu produire Foucault. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire encore sur James Scott, Michel, après ce morceau de Lynn and Ocean ?
Alors, je voulais parler des limites de la raison étatique. C'est difficile de faire une émission face à Jean-Mathias qui a avalé un clown à un moment quelconque de l'été, mais
pas du tout.
Il faudra étudier ça de plus près.
De cette émission.
C'est ça. Encore quelqu'un qui n'est pas allé à Londres. Et donc, je voulais vous parler justement des limites de la raison étatique, c'est-à-dire du fait simplement que l'État peut se tromper. Alors, je voulais signaler aussi que Morane était présente dans le studio, mais si elle se cache derrière son pull.
L'État peut-être, et le grand timonier, non.
Non, alors, ça, c'est deux choses différentes. Reprenons un ton sérieux. S'il te plaît, Jean-Mathias.
T'as raison.
Et donc l'idée, les limites de la raison étatique, elle commence d'après Scott, à la naissance de l'État, que, par exemple, chez certains philosophes, comme, je sais pas moi, Hobbes, il va présenter l'État comme surgissant d'une rationalité des individus qui se disent qu'ils vont mieux vivre avec un État que sans un État. Et donc ça, du côté des philosophes politiques du XVIIe ou du XVIIIe, c'est présenté explicitement comme une hypothèse, heuristique, mais qui n'a pas forcément de fondement empirique. Ils n'ont pas la prétention de décrire la naissance de l'État, ils veulent simplement se dire, voilà, quelles pourraient être les bonnes raisons d'avoir un État.
Mais l'idée quand même derrière, c'est que si t'as pas l'État, c'est la guerre civile.
C'est ça.
Donc c'est le spectre de la guerre civile
qui est toujours présent. Et donc, et à partir de là, d'une certaine manière, le récit standard, tel que le présente Scott, de l'apparition de l'État, et qui est présent pendant une grande partie du XXe siècle, qui se présente ainsi, c'est, en gros, longtemps, les chasseurs-cueilleurs ont lutté contre une nature ingrate et hostile, afin de survivre malgré la rareté des ressources naturelles disponibles. Et évidemment, ils luttaient les uns contre les autres. Puis, la domestication des plantes et des animaux aurait entraîné la sédentarisation, l'urbanisation, qui elles-mêmes auraient engendré spontanément les premiers États. Et à partir de là, l'agriculture aurait été une espèce de progrès magnifique pour l'humanité, pardon, tant pour, d'un côté, le bien-être nutritif, on a enfin de quoi bouffer, que pour le temps libre dégagé. Et de ce point de vue-là, le récit standard, tel que le présente Scott, dirait que les premiers États auraient exercé une force d'attraction puissante sur les populations qui y auraient vu une espèce de gain. D'après les données archéologiques, alors qui sont toujours lacunaires, mais malgré tout, c'est un peu compliqué, il y a pas mal de choses à reconstituer, il semble que c'est à peu près complètement faux. Ne serait-ce qu'à cause de l'échelle temporelle et de l'apparition, et ça c'est de la pure archéologie, c'est-à-dire quand est-ce qu'on voit apparaître les premiers trucs. Et par exemple, il semblerait que la sédentarité a existé bien avant la domestication des plantes et des animaux. Et on retrouve ainsi des traces éparses de sédentarisation qui ont 14 000 ans, sachant que les premiers États auraient à peu près 5 000 ans. Et donc la sédentarisation a été rendue possible par quoi ? Non pas par l'agriculture, mais par la richesse des zones humides, qui fournissaient des ressources variées, abondantes, aux habitants, qui étaient souvent établies au croisement de zones de migration animale. Donc ils se plantaient dans un coin, et puis attendaient que les animaux passent. Et comme c'était des zones humides, il y avait beaucoup de végétation. Et d'autre part, tu n'étais pas non plus obligé d'être sédentaire pour finalement exploiter plein de plantes que tu avais rendues comestibles. Tu attendais que ça pousse, tu te barrais, tu repassais quand ça avait poussé, tu prenais ce que tu avais à prendre et tu repartais plus ou moins. Mais sans être forcément très très nomade. Ce n'était pas forcément des ressources très éloignées.
Ça fait partie des études qu'il a faites lui
non,
sur ces terrains.
Non, ça c'est dans Homo Domesticus, c'est une compilation de données d'archéologues. Globalement, l'archéologie d'il y a depuis une vingtaine d'années à peu près.
Ok.
Et la domestication elle-même, alors il souligne qu'elle est quand même extrêmement difficile à définir, aurait commencé il y a 11 000 ans, donc 6 000 ans avant l'apparition des premiers états. Ce qui fait qu'on a sédentarité, domestication, bien avant l'apparition de l'état. Et les indices, pareil, les villes apparaissent avant les états. Les indices des premières agglomérations, c'est 8 000 ans. Et les preuves, par exemple, d'existence de villages agricoles, 7 000 ans. Là, on est encore, mais on est 2 000, 3 000, 5 000 ans avant l'apparition de l'état. C'est, en termes d'échelle temporelle, c'est colossal. Et donc, là, oui, parce que les dates, les premières traces de micro-états, c'est à peu près moins 3100. Donc, à peu près moins 5000 ans. Et donc, une de ses idées, c'est que, mais qui développe à la suite, justement, de ce qu'il a pu lire chez les anthropologues, les archéologues, c'est que les préconditions technologiques et démographiques de l'émergence de l'État ne sont pas suffisantes pour le faire naître. Et donc l'État n'était pas une nécessité. Et qu'est-ce qu'on remarque de premiers États? C'est qu'ils vont reposer sur la domestication de leur population et l'agriculture céréalière. Et en particulier, c'est pour ça que vous avez remarqué que les premiers États se fondent toujours sur l'exploitation de céréales, que ce soit le maïs, le riz ou le blé. À savoir des choses qui vont être comptabilisables relativement facilement.
Stockables
et dont la culture ne peut pas être cachée. T'as ton champ de maïs, t'as ton champ de riz, t'as ton champ de blé, il y a un fonctionnaire qui peut passer pour compter. Alors que si par exemple, c'est pour ça que t'as pas d'empire de la patate, parce que la patate tu peux la planquer sous terre. Toutes les tubercules sont contre l'État.
Ça va être sympa.
Et donc,
tu peux planquer des
pommes de terre.
Planquer des pommes de terre, tu vois. Et donc, son idée, c'est que, vu les difficultés qu'ont posé la domestication de la population et l'agriculture céréalière, qui n'est pas très efficace, parce que ton champ de blé, il est très très sensible aux variations saisonnières. Donc, pourquoi vous me regardez comme ça? Ils essaient de me faire rire, les deux en
face. Pas du tout, attends.
Et donc, ils n'y arriveront pas. Je serais aussi imperturbable qu'un Anglais né à Londres. Le flegme britannique. Ouais. Voilà. L'idée, c'est que, si vous voulez, pour que l'État puisse arriver en quelque sorte à domestiquer sa population et l'agriculture céréalière, il va falloir qu'il y ait ou pression démographique ou coercition pour forcer les chasseurs-cueilleurs à devenir agriculteurs. Parce que son idée, c'est que la plupart du temps, les chasseurs-cueilleurs n'ont pas du tout intérêt à devenir agriculteurs. Et ça se voit par une baisse de l'espérance de vie, par des squelettes qu'on trouve qui sont plus abîmés à cause d'un travail plus intense, etc. Et donc, en plus, autre problème qui souligne avec la sédentarisation l'étatisation, c'est l'apparition des maladies. C'est-à-dire que quand tu avais des bandes de chasseurs-cueilleurs, les maladies transmissibles, qui vivaient pas avec des animaux, les maladies existaient évidemment, mais elles se transformaient pas forcément en épidémie. Ou alors la population disparaissait rapidement, puis d'autres populations prenaient le pas. Et donc lui, il va dire, d'une certaine manière, là, l'État va apparaître, mais dans l'intérêt de qui? C'est sans doute dans l'intérêt de l'État, pas forcément dans l'intérêt des populations qui y vivaient. Et c'est une des raisons qui va expliquer deux choses, sans doute. La très grande fragilité initiale des premiers États, qui disparaissent souvent comme ça. C'est-à-dire que tu as un État, tu vois qu'il a vécu à peu près 100 ans, parfois moins, puis tout d'un coup, tout disparaît. Donc ici, on peut supposer épidémie, mais pas seulement. C'est que les premiers États reposent aussi beaucoup sur l'esclavage. Et une des hypothèses que fait Scott, c'est qu'en fait, les gens fuyaient les États. Ils ne voulaient pas y vivre, parce qu'ils n'avaient quasiment aucun intérêt à y vivre.
Et du coup, ça veut dire que l'État, c'est quoi? L'État, c'est un gang et un comptable, en fait.
À peu près.
Ouais.
À peu près. Alors, il définit un peu l'État. Là, j'étais passé sur le truc, mais il dit, quand est-ce qu'on peut parler d'un État? Il dit, globalement, où est-ce que j'ai noté ça? Il faut des murailles, il faut un comptable, un souverain, du personnel administratif spécialisé, une hiérarchie sociale, un centre monumental qui va pomper énormément de ressources, et de main-d'œuvre, mais qui va asseoir en quelque sorte le pouvoir symbolique de l'État, des murailles et un schéma de prélèvement et de redistribution. Et pour lui, c'est les, il critique un petit peu la définition qu'a pu donner Weber de l'État comme monopole, le monopole acquis de la violence physique légitime. Il dit, quelles sont les conditions de ce monopole sur la violence légitime ? Et pour lui, les conditions, ça va être ça. Il donne pas, il a pas forcément la prétention de définir l'État de manière complète, mais les premiers États, c'est à peu près ça. T'as une grosse ville, plein de fonctionnaires, un début d'armée, de l'esclavage, un roi. C'est ça, c'est un gang et un comptable. Et donc, t'as quelqu'un qui va venir compter tes grains de riz, compter tes grains de maïs, compter tes grains de blé, et prélever un impôt là-dessus. Sachant que très très vite, en réalité, quand tu prélèves un impôt, tu peux très très vite t'enrichir quand tu prélèves le travail des autres. C'est un classique. Et donc, ça c'est en gros ce qu'il va dire, en résumé, là je le cite, c'est que l'État antique, l'État naissant, s'efforce de créer un paysage suffisamment lisible, mesurable et uniforme, de culture céréalière imposable, et d'y disposer d'un vaste volant démographique de main-d'œuvre corvéable, militarisable, et bien entendu apte à la production céréalière. Et un des problèmes qu'il rencontre, c'est qu'il dit que les premiers États rencontrent tellement d'échecs qu'on peut se demander comment la forme étale a fini par l'emporter. Une de ses hypothèses, qui est fondée sur des travaux d'autres personnes, c'est que malgré tout, les populations sédentaires ont un très très léger gain, un avantage démographique très léger sur les populations nomades. C'est pas énorme, mais sur des centaines d'années, ça finit par produire un effet considérable. En gros, je sais pas, les femmes sédentaires vont mettre 0,3 enfants au monde de plus dans leur vie que des femmes nomades. Mais nomade. Sur 300, 400, 500 ans, ça finit par faire un gros volant. Et puis d'autre part, il va dire, il y a aussi sans doute l'aide inconsciente des barbares. C'est-à-dire d'autres gangs, mais armés, qui, un peu comme les États, mais qui sont nomades et qui, un peu comme les États, reposent sur le pillage. Sauf que très très vite, les barbares et les États vont s'opposer, mais aussi collaborer. L'État n'a pas les moyens, les États antiques n'ont pas les moyens d'établir forcément une armée permanente qui va régner sur un grand territoire. Et donc, ils ont des frontières sur lesquelles opèrent les barbares. Les barbares viennent piller les paysans qui travaillent pour l'État. Et parfois, disent à l'État, on arrête de venir piller vos paysans si vous donnez un tribut. Et de ce point de vue-là, il a tendance à penser que l'État et les barbares vont collaborer sans trop le savoir et forcer les populations à choisir un maître, plus ou moins. Donc, il y a cette, malgré tout, il y a ce mystère, mais qui n'est pas forcément si mystérieux, de pourquoi est-ce que les premiers États ont finalement perduré, sachant qu'ils étaient relativement inefficaces pour les populations qui leur étaient soumises.
Mais est-ce que ça, justement, cette espèce de menace barbare aux frontières, au fond, est-ce que c'est pas quand même là que tu retrouves le spectre de la guerre civile dont on parle dans la philosophie politique classique? C'est-à-dire qu'effectivement, l'État va garantir une protection, je dirais, physique, en partie.
Sachant que l'État lui-même réduit en esclavage ses propres populations, première, et que... Enfin bon, est-ce qu'il déclare pas la guerre à sa propre population?
Il les tue pas.
Oui, il les tue pas. Il tue pas, il les exploite. Faudrait voir. Ça, il en parle pas trop. Mais effectivement, peut-être que il critique toutes les idéologies du contrat, enfin toutes les philosophies du contrat social qu'on peut trouver de Hobbes sous une forme autoritaire jusqu'à Rousseau sous une forme plus démocratique. À mon avis, les critiques, sa critique est pas opérante parce qu'il prend pas du tout en compte l'aspect philosophique spéculatif de ses théories. Il les ramène tout de suite au côté empirique. Mais ces théories n'étaient pas faites pour expliquer l'histoire et l'empirie, quoi. C'est autre chose. Donc, faudrait voir.
Ça, ouais. Tout ça, tu dis, donc ça, en fait, c'est des synthèses qu'il fait à partir de recherches existantes, archéologiques, etc. Et ça, on trouve ça dans quel.
Homo Domesticus.
Homo Domesticus, qui est vraiment. Voilà.
C'est celui qui l'a rendu un peu célèbre en France, qui a été publié en 2019. Qui est plutôt un bon bouquin. Enfin, moi, je l'ai trouvé intéressant. Ouais. Et après, si on passe au développement plus récent de l'État, ça c'est dans L'Œil de l'État. Et dans L'Œil de l'État, c'est un gros gros bouquin, pareil, quelques idées forces, énormément d'exemples, et qui est intéressant, parce que lui, ce qu'il va dire, c'est que qu'est-ce qui va distinguer l'État dont je viens de parler, les premiers États qui apparaissent en Mésopotamie ou ailleurs, de l'État moderne. L'État, alors là je vous cite Scott, c'est que l'État prémoderne était à de nombreux égards partiellement aveugle. Il en savait très peu sur ces sujets, donc les gens qu'il dominait, leur fortune, leurs biens fonciers et les produits issus de ceux-ci, sur leur situation géographique et sur leur identité même. L'État est parvenu donc à une meilleure, là, c'est fin de la citation, l'État est parvenu à une meilleure connaissance et à une plus grande maîtrise de ses sujets et de son environnement grâce à de nombreuses actions qu'il va analyser dans l'œil de l'État, y compris du temps, qui ont suscité énormément de résistance. Par exemple, création de patronymes permanents pour repérer les gens. Voilà. C'est quoi ton nom de famille ? Le nom de famille, pour les pauvres, c'est une création qui est historiquement relativement récente. Standardisation des unités de poids a été aussi un gros combat. Parce qu'en fait, tout un tas de gens avaient intérêt à ce que les unités de poids soient pas forcément super fixes, parce qu'ils pouvaient jouer là-dessus et contrecarrer les précepteurs. Il y a des tas d'histoires formidables sur est-ce qu'on tasse le grain dans les sacs. Quelle est la taille, on vous prélève trois coffres, mais quelle est la taille du coffre, et donc tu as tout un tas de conflits autour de ça. Établissement aussi de cadastres et de recensements. Qui là suppose aussi pas mal de résistance. Et je vous signale qu'il y a au moins un département français dans lequel le cadastre n'arrive toujours pas à savoir à peu près à qui appartient quoi, c'est en Corse. Parce que là-dessus, il y a eu une grosse résistance de tout un tas de gens qui ne voulaient pas que l'État sache où commence et où termine la propriété d'un tel ou d'un tel. Donc invention de la propriété individuelle aussi, c'est-à-dire qu'avant, très souvent, la propriété était collective, c'était un village qui possédait des terres. Et donc, tout un tas de standardisation de la langue, du discours juridique, et tout ça, c'est, en fait, c'est l'État qui va essayer, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, de façon vraiment systématique, d'accroître la lisibilité du territoire et des populations qui sont sous sa domination, en les simplifiant, en les homogénéisant. Et ça va aussi accroître la possibilité pour l'État d'intervenir dans la vie des gens. Et le truc, c'est que ici, justement, c'est là que ça se démarque pas mal de ce que peut raconter un Foucault, c'est que pour lui, pour Scott, les simplifications opérées par l'État sont comme des espèces de cartes. Mais c'est pas le territoire, c'est des cartes abrégées. Elles ne représentent pas correctement, dit-il, écrit-il, l'activité réelle de la société qui y figurait. Et c'est pas son but. Le but, c'est de produire, produire un territoire suffisamment lisible pour y prélever des ressources. Et donc ça va surtout intéresser l'observateur. Où est-ce que le précepteur peut aller ? Où est-ce que le comptable peut aller choper le paysan ? Et ça, c'est ce qui lui permet. Alors évidemment, ça permet aussi d'opérer sur la réalité. C'est-à-dire que la connaissance établie par l'État, elle a beau être partielle, elle va être opératoire et elle va transformer la vie des gens. Mais elle est partielle. Et ça, pour Scott, ça explique pourquoi. Ça explique certains désastres observables dans l'action de l'État au XXe siècle. Pourquoi est-ce que certains États se sont complètement plantés, ont produit des famines, ont produit des trucs où tout d'un coup ils étaient censés prélever des richesses et puis ils exploitent que dalle, les gens meurent et il se passe rien. Enfin, il se passe rien, si, c'est une catastrophe, mais l'État n'y trouve pas son compte. Et lui, il va étudier dans l'œil de l'État tous les grands désastres qui sont engendrés par des projets au départ bien intentionnés. Donc il y a une analyse par exemple de l'industrie forestière allemande au 19e siècle, qui est assez passionnante, où il dit, il y a les forêts produisent beaucoup de bois, on se dit qu'on va pouvoir exploiter encore mieux ça en rationalisant l'exploitation du bois, en plantant les arbres à telle distance, en prenant une seule essence, en traçant des chemins, etc., etc. Il dit, mais un truc qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'en fait, si les forêts donnaient beaucoup de bois, c'est parce que c'était le bordel dans les forêts, qu'il y avait un humus très très riche, et que les arbres y poussaient bien. Et leur première forêt rationalisée, elle fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'elles vivent, en quelque sorte, en parasitage des anciennes forêts bordéliques. Sauf que très très vite, ça s'épuise. Et très très vite, ces forêts rationalisées ne sont pas du tout rationnelles en réalité. Elles sont mal fichues. Les arbres sont exposés à toutes les maladies. Parce que, par exemple, imagine, t'as un chêne. Le chêne, il chope une maladie. T'as que des chênes autour de lui. Tous les chênes chopent la maladie. Entre le chêne et un autre chêne, t'as 5 arbres. Le sixième arbre qui est un chêne va être un peu protégé de la maladie de l'autre chêne. Et donc il va mentionner comme ça tout un tas de projets de rationalisation imparfaite de l'État qui en fait reposent sur une vision à court terme et qui ne prennent pas en compte la richesse du milieu qu'ils vont exploiter. Et donc ça, je trouve ça assez, c'est une remarque assez riche parce que en un sens tu vois que non, l'État c'est pas un progrès dans la rationalisation. Ça va être un progrès dans l'exploitation à court terme d'une certaine ressource.
Tu peux avoir des succès aussi.
Tu peux avoir des succès, mais...
Le nucléaire, par exemple.
Le nucléaire.
puis c'est encore les mêmes questions qui se posent aujourd'hui hein, sur la sylviculture, ouais, la monoculture des arbres, ouais. etc. C'est encore un gros problème auquel on fait face aujourd'hui.
Ouais.
Oui.
Moi, je connais pas.
Et donc, le côté linéaire de la rationalité de l'État, oui. en fait, il se pose encore aujourd'hui. Ouais. C'est encore un gros débat. Est-ce qu'il faut mélanger différentes essences? Quelle essence par rapport au changement climatique il faut mettre aujourd'hui, sachant qu'on ne sait pas comment ça se passe dans 50 ans
Ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, en fait, une espèce de contre-discours par rapport à l'État. C'est une rationalité pure, absolue, qui avance, mais qui est efficace et qui nous fait perdre juste la richesse de la vie. Et lui, il dit, ben non, ça ne marche pas. Ça marche pas si bien que ça. Ça marche à court terme pour enrichir un continent ou une catégorie de gens dans ce continent, mais pas beaucoup plus. Et donc là-dessus, finalement le problème, comment dire ? Oui, il va dire voilà. C'est, alors là, lui, il s'est pas mal intéressé au grand bond en avant, à la collectivisation de l'agriculture en URSS, à la villagisation forcée en Tanzanie, un truc que je connaissais pas du tout, et pareil, la sylviculture en Allemagne, qui a été un peu le modèle de la sylviculture en Europe, qui a donné tout un tas de trucs pas terribles. Et lui, ce qu'il va dire, c'est justement que un ordre social imaginé ou planifié est nécessairement schématique. Ça, c'est l'action de l'État, schématisée. Et c'est ces simplifications qui impliquent que l'État omet toujours certains éléments essentiels à un fonctionnement social normal. Et par conséquent, les plans simplifiés d'aménagement de villes, de villages ou de fermes collectives fournissaient un ensemble d'instructions insuffisants pour la création d'un ordre social viable. Et ça, je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire que ça va être un ordre social artificiel, mais qui à long terme, mais pas forcément, ne fonctionne pas totalement. Et donc, ouais.
Et ça, c'est comme ça qu'il explique la disparition de certains États.
Ça c'est sur les États modernes. Ah oui, c'est pour ça qu'il explique l'échec de l'action de certains États au XXe siècle, malgré tous les moyens dont ils disposaient. Et donc là-dessus, le problème, c'est pas tant la connaissance elle-même, c'est pas l'idée que l'État produit de la connaissance, ça va plutôt être l'idée que l'État, c'est plutôt l'idée que l'État pâtit de la croyance prématurée disposée d'une connaissance complète. La connaissance de l'État n'est jamais complète. Et de ce point de vue-là, voilà, ça va forcément, en quelque sorte, rater. Et donc, de ce point de vue-là, lui, il va relever, comment dire, il va voir quatre facteurs qui expliquent les désastres étatiques du XXe siècle. L'ordonnancement administratif de la nature et de la société, qui est toujours incomplet, qui manque toujours, dans lequel il manque plein d'éléments. L'idéologie qu'il appelle l'idéologie homoderniste, qui n'est ni de gauche ni de droite, elle. On la trouve aussi bien chez les planificateurs capitalistes que chez les planificateurs communistes, et qui est une forme de foi qui emprunte sa légitimité à la science et à la technologie pour affirmer que le progrès général de l'humanité est toujours possible et qu'on devrait pouvoir parvenir à un modèle rationnel d'ordre social comparable à la maîtrise scientifique des lois naturelles, qui aboutit à une négation de la nature. Et en gros, c'est un rêve scientiste, appliqué à la politique.
Il y aurait, bon, pas rentrer dans le détail de ça, mais tu
Oui, puisqu'il y a plein de choses à dire, là.
Ouais, t'aurais beaucoup de choses à dire. Je pense, par exemple, les campagnes de vaccination, par exemple.
Oui. Bon. Ça, il n'en parle pas, par exemple.
Là, c'est effectivement un contre-exemple un peu massif.
Ouais.
Mais ce qui est intéressant dans cette critique-là, je trouve, c'est que, en fait, tu retrouves, à première vue, tu pourrais croire, et c'est la même chose avec Foucault, et pour le coup, tu pourrais croire qu'en fait, tu retrouves des critiques de toutes les formes de planification, finalement, étatique. Mmh. Et ça, c'est des choses que tu trouves aussi bien chez les néolibéraux, notamment chez quelqu'un comme Hayek, par exemple, et qui donc va te dire, bah voilà, ça marche jamais, les planifications d'État, donc en fait, il faut, que l'État intervienne le moins possible dans toute cette affaire-là, sauf que lui, en fait, il va plus loin que ça. C'est pas simplement dans le domaine économique qu'il faut pas planifier. C'est, en fait, y compris dans le domaine administratif qu'il faut pas le faire. Et là, pour le coup, on est sur tout à fait autre chose, effectivement, que ce que disent les néolibéraux. C'est pas simplement une critique de l'État stratège ou de l'État qui intervient, c'est une critique de l'État tout court, en fait, qui nous fait, lui.
C'est
une critique de l'État tout court. Et effectivement, de ce point de vue-là, c'est aussi un point, à mon avis, sur lequel il est plus solide que Foucault. Qui est plus solide que Foucault, qui pour le coup, effectivement, lui, n'est pas si éloigné, en fait, de choses qu'on va trouver plutôt chez les néolibéraux, chez Hayek, etc.
Tu veux dire que c'est plus cohérent, ça
il me semble.
Possible. J'ai pas pensé en ces termes, donc il faudrait voir. Ouais. Mais alors, il y avait ces deux critères-là qui produisent des catastrophes, il y en a deux autres qui vont les produire pour de vrai, et lui, c'est un État autoritaire à même de réaliser ça. C'est-à-dire que si tu as une planification mais que l'État est impuissant, bah, la planification reste dans les tiroirs des planificateurs. Mais si tu as un État autoritaire qui a la même de réaliser ses projets modernistes, comme en Chine maoïste par exemple, bah là, en fait, ça commence à craindre. Et très, très souvent.
Pourquoi la Chine maoïste
Parce qu'il a étudié pas mal le grand bond en avant, tout ça. Non, ça n'a rien à voir avec vos discussions quand on était en pause. Et ensuite, l'autre truc qui est souvent.
Une chinophobie un peu étonnante, quand même. Je pense.
L'autre truc qui accompagne les États autoritaires, comme la Chine maoïste, voire totalitaire, c'est souvent une société civile prostrée qui est incapable de résister à l'action de l'État. Et donc pour lui, c'est la conjugaison de ces quatre facteurs qui peut aboutir à des catastrophes massives produites par un État.
Je te propose qu'on fasse une petite pause musicale et on terminera peut-être du coup sur la dernière partie, justement sur ces techniques de résistance là,
exactement.
Et la résilience sociale face à cet État. Bonsoir à tous, c'est Jeudi Noir qui reprend sur Radio Liberté à 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Troisième partie de Jeudi Noir après cette deuxième pause musicale qu'on doit à Elton John Senna. Eh oui, avec un titre qui s'appelle My Name is James. Pourquoi ce titre ? Eh bien, parce que nous parlons ce soir de l'œuvre de James C. Scott. Voilà la raison pour laquelle.
Le sens de la propos de José est toujours formidable.
Et voilà, pourquoi on en est là? Donc James C. Scott, anthropologue anarchiste, mort malheureusement l'été dernier, et auteur d'une œuvre très, très riche et très complète, qui commence à être plutôt bien traduit en français, sur la jeunesse de l'État, les origines historiques de l'État, une espèce de contre-enquête, hein, je dirais, des raisons qui sont habituellement avancées pour justifier l'existence de cette institution. Et dans cette dernière partie de l'émission, tu voulais nous parler au fond de ce qui a fait un peu le succès des analyses de Scott, notamment en anthropologie, c'est toutes les formes de résistance passive, implicite, subalterne, déviée, rusée, la ruse des dominés, pourrait-on dire, qui remet en question finalement toutes les représentations un peu habituelles selon laquelle au fond les dominés eux-mêmes intégreraient la vision du monde, les normes, les règles qui sont produites par les dominants
et qui cherche, voilà. Et, bon, derrière ça, il y a aussi toute l'idée que, au fond, les luttes les plus importantes de résistance et les formes de défense les plus efficaces de la liberté, hein, pour les dominer, ne passent pas par les luttes institutionnelles, par les discours les plus explicites ou par les formes de résistance les plus visibles. Mmh. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là, ce qui est effectivement propre voilà, aux études subalternes, comme on dit parfois, dont Scott fait effectivement partie de ce point de vue-là. Est-ce que tu peux nous en dire davantage là-dessus ?
Clairement. Alors, ben, ça, on l'avait présenté, justement, quand on avait présenté le bouquin qui s'intitule « La domination et les arts de la résistance », qui date de 92. Qui est disponible chez Amsterdam. Mais peut-être avant, comment dire, déjà dire pourquoi est-ce que Scott est anarchiste, pourquoi il se revendique de l'anarchisme dans le petit éloge qu'il a fait de l'anarchisme. C'est quelqu'un qui cite Bakounine, qui écrit que la liberté sans le socialisme, c'est le privilège et l'injustice, et le socialisme sans la liberté, c'est l'esclavage et la brutalité. Et donc là, Scott va sans cesse taper, entre guillemets, un coup sur le capital, un coup sur l'État. Et donc, c'est quelqu'un qui ensuite, comment dire, là-dessus, parce que bon, il pense que, évidemment, la liberté a d'autres ennemis que l'État. Donc ça suffit pas de taper sur l'État, comme le feraient certains libéraux. D'accord? Mais en même temps, bon, bah, les inégalités sont aussi un problème. Et donc, de ce point de vue-là, on peut pas devenir libertarien. Donc il essaie d'adopter une espèce de posture comme ça où voilà, il faut lutter à la fois pour la liberté et contre les inégalités.
Un hippie quoi.
Un hippie, c'est ça, un vilain hippie. Et auquel on ne fait jamais confiance, d'accord, comme tous les punks. Et ici l'idée c'est quoi? C'est que, et d'autre part, là tu parlais des discours subalternes. Là-dessus, quand Scott se penche là-dessus, il se penche surtout sur des régimes où finalement le pouvoir est tellement brutal que les subalternes n'ont pas d'autre choix que de parler de façon un peu masquée, et parce qu'ils risquent la mort, hein, très très souvent, ou une répression féroce. Et Scott s'est quand même aussi intéressé à qu'est-ce qui se passe dans nos démocraties, parce que c'est pas tout à fait la même situation. C'est pas quelqu'un qui va confondre brutalement un régime libéral oligarchique dans le nôtre et une dictature. Pour lui, c'est une vision trop schématique et pas intéressante. Et il va pas mal étudier les limites de la démocratie telle qu'elle est instituée chez nous. Il pense, comme beaucoup, que c'est une pantomime, c'est-à-dire que globalement, les élections servent pas à grand chose et on fait que reconduire d'autres dominants qui vont à peu près faire la même chose que les précédents. Malgré tout, comment dire?
Je vois pas ce qui te permet de dire ça.
Bah oui, bon. On va exclure Jean-Mathias après l'émission, rassurez-vous. L'idée c'est que pendant très très longtemps, tant que l'État était trop inefficace pour pouvoir être vraiment, comment dire, séducteur, le seul ressource populaire c'était l'illégalisme. Et que théoriquement la démocratie aurait dû rendre inutile l'illégalisme en rendant possible le changement de régime politique sans violence. Ce qui veut dire c'est qu'en fait ça marche pas et que toutes les formes instituées de négociations à l'intérieur de la démocratie se font très très souvent captées par le pouvoir et n'arrivent plus à vraiment représenter les aspirations populaires, ce qui fait que régulièrement ça pète quand même. Et que très souvent dans ces circonstances-là, les syndicats et les partis politiques censés représenter le peuple vont éteindre l'incendie et rendre les revendications moins fortes. Et son idée, c'est qu'à partir de là, on peut retrouver effectivement des formes de résistance populaire qui, elles, vont très très souvent être silencieuses parce que, rationnellement, le peuple n'a pas toujours intérêt à s'opposer frontalement à l'État, qui est dangereux, qui possède de nombreuses armes, et en quelque sorte, pourquoi se mutiner quand on peut déserter? Et une de ces... Alors après, la grosse question que ça pose, et on va s'arrêter peut-être là, c'est que ça, c'était visible, c'était viable, tant qu'en quelque sorte, il y avait des espaces extra-étatiques. Qu'est-ce qui se passe quand justement l'État a tout absorbé et que d'une certaine manière on ne peut plus aller se planquer dans la montagne?
Mais il dit des choses là-dessus.
C'est-à-dire non, que, pas vraiment.
Parce qu'il n'a pas l'air de considérer que ce soit vraiment possible, ça.
Non, mais pour le coup, bah, il fait pas bouillir les marmites de l'avenir, comme disait Marx. À ma connaissance, il dit pas grand-chose là-dessus, si ce n'est que lui, il a tendance à penser que les changements, s'il doit y en avoir, de fait, d'après l'observation de l'histoire récente, peuvent rarement se passer comme dans l'utopie démocratique, c'est-à-dire par une discussion rationnelle. Il y a forcément des moments où ça pète. Parce que, de toute façon, voilà, il n'y a plus d'espace extra-étatique où on peut se sauver pour essayer de vivre autrement.
Et en tout cas, effectivement, ça l'amène à... Son idée, c'est qu'effectivement, le fantasme de conquête d'une hégémonie culturelle, en fait, est forcément, de toute façon, une stratégie de dominant, en réalité.
Sans doute. Ça, il le dit à ma connaissance. Je ne sais pas s'il le dit quelque part, possible. Donc, on va s'arrêter là pour laisser la place aux autres qui suivent. Et puis, voilà, c'était la rentrée. Et on vous retrouve bientôt.
Et l'émission, et vous pouvez la retrouver bien évidemment toujours en podcast sur notre site Jeudi Noir, gurdulu.org. À la prochaine. Bonsoir, c'est GMC+, sur Radio Libertaire 89.4 Paris et FM et DAB+, pour ceux qui en sont équipés. Numéro du studio 01 43 71 89 40. Vous reconnaissez ma voix, Yves, dans une autre émission qui s'appelle Jazz Lib. Mais donc c'est une émission qui est consacrée principalement aux compositeurs français de la fin du 19e jusque entre les deux guerres. GMC, c'est Gabriel, Maurice Claude et les autres.
avec Laurent à la technique qui nous accompagne toujours dans ses aventures. Voilà, alors je voudrais tout d'abord m'excuser auprès de vous, chers auditeurs, puisque nous avons eu des ennuis divers et variés, ce qui fait que GMC+, la dernière fois, n'a pas pu être diffusé. Donc, nous vous renouvelons absolument toutes nos excuses. Voilà. Alors, ce soir, nous allons consacrer une émission à Debussy. Nous continuons un petit peu à explorer ce musicien absolument incroyable, et nous allons écouter deux œuvres. J'espère que nous aurons le temps, et peut-être même une troisième. Et donc je vais essayer de faire court parce que il y a beaucoup de choses à dire, mais également faire un comparatif. Donc nous allons écouter évidemment un thème de musique qui n'est pas une symphonie, mais qui pourrait être une symphonie. Il s'appelle La Mer, qui est en fait sous-titré Trois esquisses symphoniques. Voilà. Donc c'est une pièce en trois mouvements et qui a été illustrée par César Franck, Vincent Dindy, Chausson ou Paul Dukas. Alors, elle contient plusieurs thèmes et motifs cycliques traversant en fait toute l'œuvre. Ces mouvements en fait sont dotés d'un univers assez poétique. Alors, je ne sais plus qui est-ce qui disait que il fallait fermer les yeux et écouter la mer, et on aurait plus de sensations que si on regardait la mer elle-même. Voilà, donc Debussy, c'est quelqu'un qui est dans l'étrange. Enfin, je vous lirai des textes tout à l'heure, mais c'est